Seigneur, tu es digne. Et nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis dans notre vie, pour la mission que tu remplis, Seigneur, pour la vérité que tu apportes dans notre cœur, dans notre vie, pour toutes ces grâces que tu nous accordes. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Notre vie tout entière, Seigneur, nous voulons te la consacrer. Parce que toi, Seigneur, tu n'as pas hésité à donner ta vie pour nous. Tu n'as pas hésité à te sacrifier afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions entrer dans le royaume. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Judas? Alléluia, l'étoile brillante du matin. Il est merveilleux. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 18, à partir du verset 28. Jean chapitre 18 à partir du verset 28. Je lis. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux. Et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi, Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Okay. Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation est les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus qui répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus répondit, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Alléluia. Je vous remets rapidement dans le contexte. Jésus a été trahi par Judas et envoyé par les Juifs devant le Sanhédrin, donc qui est le tribunal juif, parce qu'en ce moment-là, Jérusalem, ainsi que tous les Juifs étaient contrôlés par l'Empire romain. Et donc, ils étaient limités dans les décisions qu'ils pouvaient prendre. Ils pouvaient arrêter quelqu'un, mais ils ne pouvaient pas le condamner à mort. Il n'y a que le gouverneur ou bien que le représentant de l'autorité romaine qui avait la capacité de pouvoir condamner quelqu'un à mort. Et donc, ils ont emmené Jésus vers celui-là, donc qui s'appelait Ponce Pilate, afin que lui puisse prendre une décision et le condamner. Mais les accusations qu'il porte contre Jésus est qu'il veut se rebeller vis-à-vis de l'autorité romaine, pardon, en se proclamant roi, okay, et notamment roi des Juifs, alors que eux, depuis un certain temps, ils n'avaient plus de roi. Amen. Si vous faites un peu l'historique de la nation juive, vous allez vous rendre compte que après Abraham, il y a eu comme roi sur le peuple juif l'Éternel, Dieu lui-même. Et qu'arrivé à un certain moment, le peuple était fatigué, ne voulait plus avoir Dieu comme roi, il voulait plutôt avoir un homme. Parce qu'il n'y avait pas de roi, mais il y avait plutôt un prophète, c'était le prophète Samuel, qui parlait de la part de Dieu. Il exerçait pratiquement, il était le porte-parole. Mais le peuple a commencé à se dire, non, nous on veut un roi qu'on peut voir, un roi à qui on peut rendre visite, un roi qui vit les mêmes réalités que nous. Et à ce moment-là, Dieu a accepté, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Il a accepté à contre-cœur. Il a dit, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. Et il leur a donné Saül comme roi. Okay? Et donc, le peuple juif a été ensuite administré par des rois humains pendant un certain temps. Donc, on a eu d'abord Saül, après on a eu David. Saül qui avait bien commencé avec la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Et ensuite, on a eu David. David qui a été le premier roi sacrificateur. C'est-à-dire le premier roi, mais qui en même temps avait la capacité d'entendre Dieu, de communier avec Dieu, de parler avec Dieu et d'avoir des révélations de la part de Dieu. Vous comprenez? Donc David est le premier élément de la race, en fait, des hommes que Dieu veut établir sur la terre. Amen. Parce que quand Dieu lui-même s'est établi roi sur le peuple juif, c'est parce que en réalité, le but que Dieu poursuit, la vision que Dieu a, c'est de créer son royaume. C'est vraiment de créer son royaume sur la terre. Amen. Sur la terre. C'est que son règne, qui est parfait dans les cieux, puisse être établi sur la terre. Amen. Et c'est en cela que le peuple juif s'est trompé. Vous voyez, lorsque les gens ont crucifié Jésus, ils ont écrit au-dessus de la croix le roi des Juifs. Mais Jésus n'est pas le roi des Juifs. Quand Pilate lui a demandé, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il dit, « Mais qui t'a dit ça ?» Ce sont les gens qui sont venus me livrer, qui t'ont dit que je suis le roi des Juifs. Il dit, « Mais il lui a dit, je ne suis pas le roi. » Il n'a pas dit clairement comme ça, « Je ne suis pas le roi des Juifs. » Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Et quand Pilate lui demande, donc tu es roi? Il dit, oui, je suis roi. Amen. Mais seulement mon royaume n'est pas de ce monde, parce que si mon royaume était de ce monde, l'armée de mon royaume serait venue me délivrer. Mais je suis né dans ce monde, et je suis venu dans ce monde pour pouvoir témoigner de la vérité. Quelle est la vérité? C'est que Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, son Père, Dieu le Père, est le créateur de l'univers et de l'humanité. Alléluia. Et que c'est ce même Dieu-là qui a fait l'homme, qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est pour ça que l'homme a essayé de bâtir des royaumes sur la terre. Mais ils n'ont jamais pu faire le royaume parfait. Pourquoi ? Parce que celui-même qui a conçu la notion de royaume, c'est Dieu lui-même. Mais vous allez comprendre quand même après, puisqu'on est en train d'étudier le royaume, que un des royaumes qui se rapproche le plus dans sa ressemblance, dans sa conception du royaume de Dieu, c'est le royaume, c'est l'Empire romain, dans son administration et toutes ces choses. Donc on va étudier ça et puis sortir des enseignements dessus. Mais les Juifs se sont trompés. Jésus n'est pas venu revendiquer la royauté des Juifs. Même quand, puisqu'ils se sont basés sur des écritures qui disaient que oui, David, Dieu donnera une postérité au roi David et son royaume sera éternel. Mais on ne parle pas de ceux du royaume terrestre. Les gens sont trop terrestres. Ils sont trop terrestres. Et donc, les Juifs n'ont rien compris. Depuis Exode chapitre 19, verset 6. Exode chapitre 19, verset 6. Lorsque Dieu parla à Moïse. Exode chapitre 19. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 3 même. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Est-ce que vous comprenez? Toute la terre est à moi. Il dit, si maintenant vous faites ce que je vous dis et que vous vous soumettez à moi et que vous marchez selon les principes et que vous acceptez la vision que je nourris pour vous, il dit, je vais vraiment faire de vous des personnes qui allaient dominer. Amen. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc déjà, il nous dit une vérité, c'est que toute la terre lui appartient. C'est lui qui l'a créée. Il n'y a aucun souverain sur cette terre-là qui a ajouté un grain de sable à la terre. Il n'y a aucun roi, aucun président, aucun chef d'État qui a ajouté une goutte de pétrole, qui a ajouté un gramme d'or, qui a ajouté un gramme de diamant, parce que eux tous, ils sont venus et ils ont trouvé une terre qui était déjà faite, qui était déjà parfaite, qui avait à l'intérieur toutes les ressources pour pouvoir s'occuper des plus de 6 milliards de personnes qui vivent sur la terre. Sachez que les cellulaires que vous avez, les habits, les vêtements que vous portez, les lunettes que vous portez, les voitures dans lesquelles vous roulez, les maisons dans lesquelles vous habitez, le goudron sur lequel les voitures roulent, toutes ces choses-là étaient déjà dans la terre au moment où vous êtes venu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne qui est venu qui a ajouté même un caillou. Personne n'est allé sur la lune pour aller prendre un grain de sable pour dire, bon, avec ce grain de sable, on va faire quelque chose sur la terre. Donc, il a mis dans la terre tout ce dont l'homme a besoin comme nourriture, comme vêtements, comme instruments, comme appareils. Les gens ne font que transformer les choses, mais ils ne créent rien. Même quand ils vous disent qu'ils vont faire de l'acier en partant du fer, mais ils prennent le fer qui existait là déjà. Même quand ils disent qu'ils vont faire de l'aluminium, mais ils prennent des trucs qui étaient là déjà. Donc celui qui a mis ces choses-là savait quelle utilisation on allait en faire. Est-ce que vous comprenez? Donc la terre n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Amen. Il dit, toute la terre est à moi. C'est moi qui ai créé la terre. C'est moi qui ai mis les choses dans la terre. C'est moi. Amen. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, vous serez pour moi un royaume. Vous serez pour moi un royaume. Il n'a pas dit que vous allez être pour moi une religion. Il n'a pas dit vous serez pour moi des juifs orthodoxes. Il n'a pas dit vous serez pour moi des catholiques. Il n'a pas dit vous serez pour moi des évangéliques. Il n'a pas dit vous serez pour moi des pentecôtistes. Il n'a pas dit « Vous serez pour moi des baptistes ». Il a dit « Vous serez pour moi un royaume ». Amen. Donc Dieu, il a déjà dit clairement ce que lui veut faire. « Vous serez pour moi un royaume, deux sacrificateurs et une nation sainte ». Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Tu vas et tu leur dis qu'ils me suivent, qu'ils fassent ce que je veux. Parce que moi, mon but est de faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Dis à ton voisin « Royaume de sacrificateurs ». C'est tout. Mais les Juifs n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Quand bien même Jésus leur a dit, le salut vient des Juifs. Ça, c'est dans Jean chapitre 4, verset 21. Jean chapitre 4, verset 21. Il parlait avec la femme samaritaine et il lui disait, je vais lire à partir du verset 20, parce que apparemment, elle avait quelques petites connaissances de la parole. Non, mais je vais lire comment à partir du verset 17, ça me fait sourire souvent. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Okay? Donc, tu parles à quelqu'un, tu vois, non, que tu ne peux pas tromper. Parce qu'il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Le problème, c'est que vous avez dans certaines religions, parce que les gens pensent toujours que Christ est venu pour établir des religions, des gens qui sont assis, et puis vous venez vous le raconter, c'est toi qui lui dis ce que tu as fait. Mais lui n'est pas capable de savoir ce que tu as fait. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on ne parle pas de religion. Là, on parle du Fils de Dieu. On parle du royaume de Dieu qui est un royaume de lumière et de vérité. Et le Seigneur, en voyant la femme, sait dans quel état cette personne-là vit. Amen. Il n'a pas besoin qu'elle lui dise. Il dit, bon, il lui demande pour savoir si elle est prête à sortir de son état, si elle est prête vraiment à entrer dans le royaume. Tant qu'elle veut demeurer dans le mensonge, elle ne peut pas entrer dans le royaume. Parce qu'il a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de vérité. Donc, entre dans le royaume ceux qui veulent marcher dans la vérité. Alléluia. Et pas dans l'hypocrisie, et pas dans le mensonge. Ok? Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu as bien fait. Donc il dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et elle maintenant qui répond, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Il n'est pas n'importe quel prophète. Les gens ont voulu ériger des prophètes au même rang que Jésus. Jésus n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète parmi les prophètes. Alléluia. Il est plus que ça. Regardez la suite de la conversation. Elle lui dit maintenant, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Regardez les discussions des religieux. Et on dit il faut prier ici. Vous vous dites il faut prier là. Mon frère, ce n'est pas l'endroit d'où tu pries qui est important. C'est la relation que tu as avec le Père que tu pries. C'est pour ça que quand Jésus nous enseignait à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Il a dit d'abord que ton nom soit sanctifié. Après, qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne. Le règne, c'est quoi? Il n'a pas dit que ta religion vienne. Il dit que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton royaume soit établi, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Donc le but de Dieu, encore, ce n'est pas de créer une religion. Le but de Dieu, c'est d'asseoir et d'établir son royaume sur la terre. Et c'était la mission de Jésus. Tu vois? Regarde maintenant ce que le Seigneur lui répond. Donc, la femme lui dit, Jésus, crois-moi. Verset 20. Nos pères ont adoré cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Ce n'est pas une question de lieu. Tu vois? Ensuite, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, vous adorez le Seigneur, t'adore. Il dit, ce que vous ne connaissez pas, il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais quand il dit, le salut vient des Juifs, ok, en fait, ça ne veut pas dire que c'est les Juifs qui vont amener le salut. C'est-à-dire que le salut va passer par les Juifs. Amen. Donc, les Juifs sont un canal par lequel la bénédiction doit passer. Parce que quand Dieu a choisi Abraham, il lui a fait cette promesse. Il a dit, très clairement dans Genèse, même chapitre 12, verset 1 à 4, il dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en travers de toi. » Amen. Ça veut dire que Dieu avait déjà choisi le peuple par lequel il allait faire venir son Messie. Sa lignée avait déjà été établie. De Abraham, on allait avoir Isaac, ensuite Jacob, des 12 tribus, donc de Jacob allait sortir 12 tribus, de la tribu de Judas, on allait encore avoir une lignée qui allait nous emmener jusqu'à David, et de David, nous allions aller encore jusqu'à ce que Jésus, qui est vraiment le Messie, c'est-à-dire que qui est le salut, qui vienne, tu vois, que Jésus qui est le salut vienne par les Juifs. Donc quand il lui dit ça, en fait, il lui dit que le salut vient des Juifs, ça veut dire que c'est par les Juifs que celui qui ouvre la porte du royaume de Dieu viendra. Ce qui nous montre de manière claire et nette que l'islam est une usurpation. Parce que le salut ne peut pas venir des Arabes. Le salut ne peut pas venir des Chinois avec le bouddhisme. Le salut ne peut pas venir des Thaïlandais. Le salut ne peut pas venir de certains peuples en Afrique. Le salut ne peut pas venir de la Papouasie. Dieu a dit, c'est par les Juifs que le salut va venir. C'est par les Juifs. Et par les Juifs, ça veut dire que celui qui ouvrira la porte du royaume sera un Juif. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Et c'est pour ça maintenant qu'il dira ensuite, Dieu est esprit. Tu vois? Ok, bon, on va lire à... Mais l'heure vient plutôt, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Les vrais adorateurs. On ne parle pas des faux adorateurs. On ne parle pas des gens qui allument les bougies. On ne parle pas des gens qui se promènent avec de l'encens. On ne parle pas des gens qui vont faire des pèlerinages à gauche ici, qui vont là-bas, qui pensent que Dieu se trouve dans une grotte ici, qui pensent que Dieu se trouve dans un endroit. Il dit non. Il dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs, on ne parle pas des faux adorateurs, on parle des gens qui marchent dans la vérité, des gens qui ont leur cœur qui est transformé, des gens qui ont accepté de l'évangile tel qu'il est, des gens qui veulent vivre vraiment la réalité de l'évangile, qui veulent avoir une vraie relation avec Dieu, pas des artifices, pas des chapelets, pas des huiles saintes, ou bien des eaux bénites, ou bien des toutes sortes d'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et il dit, le jour vient et il est déjà arrivé où les vrais adorateurs, c'est-à-dire les vrais, c'est-à-dire ceux qui se tiennent vraiment dans la vérité, ceux qui vont connaître vraiment Dieu, ils vont l'adorer, mais ça ne sera pas de manière charnelle, mais ils vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Ils vont être capables de pouvoir communiquer avec Dieu parce qu'il a dit, Dieu est esprit. Alléluia, Dieu est esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la femme donc lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, elle est au courant qu'il y a un Messie qui doit venir. Parce que le Messie, c'est qui? Le Messie, c'est le roi. Le Messie, c'est lui qui ouvre la porte. Le Messie, c'est lui qui doit venir pour ouvrir les yeux des hommes. Parce que les yeux des hommes ne pouvaient pas être ouverts par les hommes. Tous ceux qui ont vu ou qui ont entrevu le règne de Dieu l'ont vu de l'extérieur. Les Moïse l'ont aperçu. Il a même dit à Moïse, il dit, écoute, un homme ne peut pas voir ma gloire et vivre. Donc je vais passer, mais je vais fermer tes yeux jusqu'à ce que je sois passé et je vais te permettre de voir seulement mon dos. Et quand Moïse a vu ça, il a été transfiguré. Sa nature a changé. Quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit, la gloire de Dieu, il n'en revenait pas. Mais quelqu'un qui a entrevu la gloire ne peut pas mieux parler de la gloire que quelqu'un qui a vécu dans la gloire, qui est la gloire et qui s'est dépouillé de cette gloire-là pour pouvoir descendre sur la terre, pour pouvoir ouvrir les yeux de ceux qui ont été tellement longtemps privés de cette gloire-là que Adam est allé vendre à Satan. Est-ce que vous comprenez? Parce que Adam, il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Adam, la Bible dit que quand il a péché, il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais est-ce que quand Dieu l'a créé, Dieu l'a laissé se promener nu? Non. Dieu a créé Adam, mais Dieu ne l'a pas, il n'était pas nu. C'est quand quelque chose l'a quitté qu'il s'est rendu compte de sa nudité. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, en réalité, Adam était revêtu de gloire. Alléluia. Adam était revêtu de gloire. Et il marchait vraiment dans la gloire. Ce qui fait qu'il n'avait même pas conscience, il n'avait pas besoin de porter des vêtements. Parce qu'il n'y a pas de vêtement qui est plus beau que la gloire de Dieu. Alléluia. Et cette gloire-là couvrait sa nudité. Cette gloire-là lui donnait une beauté qu'on ne peut même pas qualifier. Et Adam, il était dans la gloire. Raison pour laquelle, Lorsqu'il a péché contre Dieu, lorsqu'il a vendu cette gloire-là, puisque plus tard, Satan qui apparaît à Jésus lui dit, écoute, prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ce monde. Et Jésus qui lui dit, l'homme n'adorera que, il dit, l'homme n'adorera que Dieu. Amen. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant toi pour cette gloire. Cette gloire-là, je vais la récupérer. Je suis venu pour la récupérer. Alléluia. Je suis venu pour la prendre. Je vais te l'arracher. Amen. Et donc, quand Adam était privé de cette gloire, il a dit, ah, quand Dieu l'a appelé, il dit, Dieu lui dit, Adam, il fuit, il va se cacher. Il dit, mais Adam, où es-tu? Il dit, non, je suis allé me cacher car j'ai eu peur. Il dit, mais qui t'a appris à avoir peur? Moi, quand je t'ai créé, je n'ai pas mis ce sentiment. Dieu n'a pas peur. Tu as peur de quoi? Si Dieu a peur, c'est chaud pour nous. Dieu n'a pas peur. Donc il dit, mais ce sentiment-là, c'est un sentiment qui ne vient pas de moi. As-tu mangé du fruit que je t'ai défendu? Et il a vu dans sa nudité. Qu'est-ce que Dieu fait? Adam, pour cacher sa nudité, vous savez ce qu'Adam faisait? Il était tombé tellement bas. De la gloire, pour cacher sa nudité, il prenait les feuilles, les plantes, et puis il prenait ça pour cacher son sexe et cacher son derrière. Il cachait ça avec des feuilles de banane. Et c'est ce que les hommes font avec la religion. C'est ce que les hommes font avec la religion. C'est-à-dire qu'avec des artifices, des trucs qu'ils trouvent, des affaires qu'ils trouvent un peu à gauche, à droite et tout, ils prennent et puis ils essaient de cacher leur nudité, ils essaient de cacher. Mais quand Dieu a vu, il dit, mais attends, tu fais quoi avec les feuilles de banane? Il dit, non, je m'habille, je me protège. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris un agneau. Il a arraché la peau de l'agneau. Il dit, il faut t'habiller avec ça, c'est mieux. Ça nous montrait encore que ce n'est pas le sacrifice d'un agneau que la nudité de l'homme allait être. Oh. Non! My God! Dieu, cette affaire-là, ce n'est pas de l'amusement. C'est une affaire, ça a commencé depuis la création de la terre jusqu'à maintenant. Donc, tout ce que Dieu a fait dans Genèse, il nous a montré ce qui doit se passer dans le livre d'Apocalypse. Ça se tient. Les gens qui disent que non, la Bible, c'est... Non, la Bible, c'est la révélation. Et le problème, c'est que si tu n'as pas la révélation, tu lis, tu ne comprends rien. Et donc, Dieu dit à Abraham, écoute, ce n'est pas toi que le Messie va venir. Donc, c'est forcé que ce soit par les Juifs. Donc, Jésus lui dit, effectivement, le salut vient des Juifs. Et elle lui dit, oui, mais c'est vrai, mais on nous a dit que le Messie doit venir. Quand le Messie va venir, il va ouvrir les yeux de tout le monde. Et regarde ce qu'il lui dit au verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Moi qui te parle, c'est moi le Messie. C'est moi qui suis venu pour ouvrir les yeux du monde. C'est moi qui suis venu pour pouvoir permettre aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas la peine d'aller chercher sa grand-mère. Elle n'est pas le Messie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher sa mère. Elle n'est pas le Messie. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une femme qui a eu la grâce de pouvoir apporter, vraiment donner naissance à celui qui est le Messie. Mais ça ne fait pas d'elle le Messie. Parce qu'on n'a pas dit les Messies. On a dit le Messie. Le, ça veut dire un. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis une vérité. Je suis une vie. Il n'a pas dit, ma famille est le chemin. Sinon, si vous adorez sa mère, donc vous allez adorer sa grand-mère. Et si vous adorez sa grand-mère, vous allez adorer son arrière-grand-mère. Et son arrière-grand-mère, vous allez adorer son arrière-arrière-grand-mère. Et donc, dans ce cas-là, vous allez adorer Adam. Parce que c'est par Adam que tout cela sont passés. Alors que Adam est le plus grand traître que l'humanité ait porté. Alors que dans la lignée, mais oui, alors que dans la lignée même de Jésus, il y a eu par exemple David qui a été adultère et qui a tué. Et qui a tué. Vous avez eu plusieurs personnes dans la lignée de Jésus qui n'ont pas forcément plu en tout ce qu'ils ont fait à Dieu. Mais c'est de toute cette somme, de toutes ces choses-là, Dieu a envoyé le Messie. Il dit, je suis venu sur la terre pour témoigner de la vérité, pour vous parler des choses que vous ne connaissez pas, pour vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Et si vous êtes malin, vous allez écouter même ce que ma mère vous a dit au mariage de Cana, lors de mon premier miracle. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais les hommes veulent créer des religions. Et c'est ça le problème. C'est amener le royaume de Dieu dans le système, dans le domaine de la religion. La religion, c'est l'effort de l'homme pour pouvoir plaire à Dieu. C'est les manipulations de l'homme pour pouvoir se faire accepter de Dieu. Mais Dieu, lui, il veut nous faire entrer dans son royaume. Il n'est pas intéressé par nos religions. Donc, les Juifs, au lieu de réaliser le projet du royaume de Dieu sur la terre, parce que Dieu voulait passer par eux pour asseoir son royaume sur la terre, ils ont développé une religion qu'on appelle le judaïsme, qui est une autre religion dans laquelle Dieu ne se reconnaît pas. Amen. C'est pour ça encore que Dieu a dit, notre Père, que Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous l'avez entendu parler de religion? Que ton règne vienne. Dis que ton règne vienne. Donc, les religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré le royaume et ils continuent de l'enterrer. Même quand Jésus a envoyé les disciples pour prêcher l'évangile, dans Luc chapitre 9, verset 2, regarde ce qu'il dit. Il les envoie pour pouvoir prêcher le royaume. Luc chapitre 9, verset 2. Il ne les a pas envoyés prêcher une religion. La Bible dit au verset 1, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Amen. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Est-ce qu'il les envoyait pour aller prêcher une religion? C'est pour ça que les religieux, là, ils n'ont aucun pouvoir sur les démons. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont aucun pouvoir sur les démons. Quand vous venez les voir, je suis possédé, on dit non. C'est un problème psychologique. Il faut aller voir un psychiatre. Quand tu viens, tu as un problème grave. On dit non. C'est dans ta tête que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui prêchent le royaume. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui prêchent la religion. On parle d'évêques ici, de trucs là, ils ont des titres bizarres, mais leur titre là, quand tu leur envoies un possédé, ils vont sortir une dissertation, vous voyez, l'économie des nations. Ils vont faire une homélie de 2 heures, mais au finish, tout le monde repart exactement comme ils sont arrivés, parce qu'ils ne communiquent pas le royaume. Ils ne communiquent pas le royaume. Alléluia. Tu dois faire un choix. Il y a des gens qui veulent la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Tu ne peux pas plaire. C'est-à-dire que c'est un choix. Ou bien tu es pour le royaume, ou bien tu es contre le royaume. Mais tu ne peux pas être au milieu. Ce n'est pas possible. Donc Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force et pouvoir sur les démons et la puissance de guérir les maladies. Donc les gens qui disent aujourd'hui qu'on ne chasse pas les démons, il ne faut pas parler des démons, c'est des gens qui sont déjà sortis, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils sont dans la religion, mais ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Parce que la religion, c'est l'ennemi même du royaume de Dieu. Vous comprenez? Ne soyez pas des religieux. Soyez des enfants de Dieu. Soyez des enfants du royaume. Soyez des fils et des filles du royaume. Ne soyez pas des religieux. Amen. Il leur donna donc force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il dit, allez, prêchez le royaume de Dieu. Est-ce qu'à un moment, Jésus a dit, allez et prêchez les églises, prêcher une religion. Est-ce qu'à un moment, moi j'aimerais bien que quelqu'un fouille dans sa Bible et me montre la religion de Jésus. Jésus n'a pas parlé de religion. Jésus a parlé de royaume. Et la religion a enterré le royaume. Et la religion continue d'enterrer le royaume. Jésus une fois a dit, quand les gens lui ont dit, oh, il chasse les démons par Belzébul. Il dit, mais pourquoi vous dites que moi je chasse les démons par Belzébul? Et vous, vos pères, par qui les chassent-ils? Il dit, mais si aujourd'hui vous voyez que les démons sont chassés, c'est parce que le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où le royaume de Dieu est établi, les démons n'ont plus de force, n'ont plus de pouvoir. La maladie n'a plus de force, n'a plus de pouvoir. Parce que dans le royaume de Dieu, personne n'est malade. C'est fort. Dans le royaume de Dieu, personne... C'est pour ça que quand il dit, entre dans le royaume, si tu as un démon, il est obligé de partir. Si tu es malade, tu es obligé de guérir. C'est pour ça qu'il guérissait les malades et chassait les démons. Ce n'était pas le but. Le but de Christ n'était pas de chasser les démons et de guérir les malades. Le but de Christ, c'était de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Et comme ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu avec les démons et avec la maladie, donc ils donnent le pouvoir à ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle de pouvoir chasser les démons et de pouvoir guérir les malades pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu, délivrés de leurs démons et en bonne santé. Alléluia. C'est ça. Le but de l'évangile n'est pas de guérir les malades. Le but de l'évangile, c'est d'amener les gens dans le royaume de Dieu. Mais dans le processus de les prendre dans les ténèbres pour les emmener dans la lumière, il y a des démons qui doivent être chassés et il y a des maladies qui doivent être guéries. Alléluia. Il faut bien souligner ça dans ta Bible. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Dis tous les démons. Tous. Voilà. Tout. Il n'y a pas une catégorie de démons, une espèce de démon. Il y a des gens qui ont commencé à prêcher, oui, dans les derniers temps, il y aura une catégorie de démons que personne ne peut chasser, à part eux. Mon ami, Jésus a donné le pouvoir sur tous les démons. Alléluia. Démons des derniers temps. Démons de Paris. Démons de Kinshasa. S'il y a des gens qui viennent, moi, je suis possédé de l'esprit, là, on le trouve dans une rivière à Kinshasa. Je n'ai pas besoin d'aller à Kinshasa pour chasser le démon, mon frère. J'ai le pouvoir sur tous les démons. Alléluia. Avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il dit, allez prêcher le royaume de Dieu. Amen. Et ensuite, il leur dira, par exemple, ne prenez rien pour le voyage. Il leur dit, ni bâton, ni sac. Ne prenez rien, vous allez voir le royaume à l'œuvre. Tout ce dont vous avez besoin, les gens vont vous donner. Parce que vous allez fonctionner maintenant dans la grâce du royaume. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu entres dans le royaume, tu rentres dans le programme économique du royaume. Je vous ai dit, un royaume a obligatoirement ce qu'on appelle... à des programmes. Amen. On a parlé du programme. On dit un royaume a un programme de santé, guérison. Un royaume a un programme d'éducation, la connaissance de la parole de Dieu. Un royaume a un système d'imposition, la dîme. Un royaume a un système de communication, les dons du Saint-Esprit, parole de sagesse, parole de connaissance, révélation et tout. Un royaume a un corps diplomatique, c'est les ambassadeurs du royaume, les ambassadeurs de Christ. Un royaume a un système d'administration, que nous allons connaître, et un royaume a une économie. Et dans le royaume, personne n'est pauvre. Vous ne connaissez pas ça? Il y a des royaumes où personne n'est pauvre. Quand le royaume est riche, tous les citoyens du royaume sont riches. Alléluia. Et nous allons voir l'accomplissement de la mission de Jésus dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Là, c'est un texte prophétique. Amen. C'est un texte, en fait, vous savez, plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez comprendre Dieu. Et plus vous allez ajouter aussi d'autres formes de langage ou de conjugaison dans votre langage. Parce que avec Dieu, la notion de passé, de présent et de futur, il faut l'enlever. Parce que Dieu se tient hors du temps. Et donc, il n'est pas conditionné par le temps. Ce que toi, tu appelles le passé, ok, Dieu, pour lui, il le voit, il peut y avoir accès à tout moment. Ce que toi, tu appelles le futur, Dieu, il le voit, il peut y avoir accès à tout moment. Parce que le passé et le futur sont là devant lui. Je ne sais pas si tu comprends. Lui, il voit. Il est l'éternité. Et le temps, de par sa définition, est le temps. C'est un commencement. Et c'est une fin. Donc Dieu voit le commencement du temps et voit la fin du temps, mais lui-même, il se tient dans l'éternité. C'est pour ça que dans la Bible, il y a certains langages qui vont te paraître bizarres. Il y a par exemple le passé prophétique. Tu sais c'est quoi le passé prophétique? Quand il dit par exemple que par ses meurtrissures, vous avez été guéri. C'est le passé prophétique. Dans le langage français, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça que les gens qui ont traduit la Bible ont eu d'énormes difficultés à comprendre certaines choses. Quand il dit par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Tu n'étais pas encore né, mais tu étais déjà guéri par le sacrifice que lui, oh my God, que lui il a fait. Regarde comment Dieu va aller servir la communion à Abraham par Melchizedek. Melchizedek revient, Abraham revient victorieux d'un combat. Melchizedek vient et lui dit, béni soit Abraham. Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a. Donc il va déjà faire accomplir la dîme, alors que la dîme n'avait pas encore été instaurée puisque Moïse n'était pas encore né. Et voilà maintenant que Melchizedek lui donne du pain et du vin, la chair et le sang de Christ, alors que Isaac, qui donna après Jacob, et tout cela ne sont pas encore nés, mais il allait, Melchizedek a pu prendre la communion après que Jésus l'ait instauré pour venir servir ça à Abraham dans le passé. Oh my God, oh my God. Ça c'est terrible. Comment Dieu intervient à plusieurs moments, et même quand il parle du Fils de l'homme. Daniel, Jésus n'était pas encore venu sur terre. Mais déjà, Daniel a vu le Fils de l'homme dans la fosse aux lions. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont vu le Fils de l'homme dans la fournaise ardente. Donc quand les gens pensent que le commencement de Jésus a commencé par sa naissance de Marie, c'est grave. Quand il a parlé aux Juifs, il leur dit, mais vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Ils disent, mais toi, tu connais plus qu'Abraham. Il dit, mais qui est Abraham? Il dit, mais avant qu'Abraham ne fût, je suis. Vous savez qui je suis? Je suis. Il n'a pas dit j'étais, il dit je suis. Parce que lui, il est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. Son passage sur la terre ne fut qu'un court instant dans l'éternité de ça. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est même plus petit qu'une goutte d'eau. Parce que ce n'est rien du tout. Mais c'était pour lui un sacrifice de se dépouiller de sa gloire et de venir sur la terre. Mais dans l'accomplissement, donc quand vous lisez ce texte, vous allez penser que c'est quelque chose de passé. Mais c'est quelque chose qui doit venir. C'est passé pour Christ, mais pour toi, ça doit venir. Tu ne l'as pas encore vu. Regarde, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Personne, dis à ton voisin, personne. Personne sur la terre. Ils ont pris les cousins, les cousines, ils ont pris les anciens prophètes, ils ont pris Moïse, ils l'ont pesé, ils ont dit, toi tu peux pas. Ils ont pris Josué, toi tu peux pas. Ils ont pris David, toi tu peux pas. Ils ont pris Joseph, on dit toi-même tu peux pas. Ils ont pris Daniel, on dit non, Daniel, non, tu peux pas. Ils ont pris Élie, ils ont pris Jem Kakou, ils ont dit Jem Kakou, oh non, lui peut pas. Ils ont pris tous les gens qu'ils ont trouvés. Tous les grands hommes de Dieu sont venus. Bénin dit, moi je veux ouvrir. On dit, toi Bénin, toi tu peux pas. Tu ne peux pas. Personne ne. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ils ont cherché. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, le sceau. Personne. Alléluia. Personne dans le ciel, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Oh my God! Oh my God! Oh, moi-même, le fait de comparer Jésus à quelqu'un, ça me. Tu peux pas le comparer. Tu peux pas. Il n'y a pas un être plus grand que lui. Il n'y a pas. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Au verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu as fait de une religion? Est-ce que tu as fait de des évangéliques? Est-ce que tu as fait de des catholiques? Est-ce que tu as fait de des pentecôtistes? Est-ce que tu as fait de des bouddhistes? Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Sachez que cette terre-là, sur laquelle nous marchons, est la propriété de Dieu. Et que Dieu, que les hommes le veuillent ou non, va y établir son royaume. Toutes les armées que la terre est en train de lever ne pourra pas empêcher le royaume de Dieu de s'installer. Le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. Christ va venir régner pendant 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Et il va régner avec les citoyens de son royaume. Nous sommes appelés à faire partie de ce royaume. Nous sommes formés pour faire partie de ce royaume. Quand on parle de système d'éducation du royaume, vous êtes dans le système d'éducation du royaume. Les églises sont un système d'éducation du royaume. C'est un endroit où vous devez apprendre la parole de Dieu, où vous devez connaître la parole de Dieu, où vous devez être enseigné pour connaître votre place, comprendre le royaume, marcher dans la réalité du royaume, être des citoyens du royaume. Et comme ça, vous allez avoir aussi un rôle à jouer lorsque le Seigneur de gloire va revenir sur la terre. Alléluia, il vient pour établir le royaume de Dieu. Il vient pour établir le royaume. Et après le millénium, il va détruire la terre que nous connaissons. Cette terre souillée par le sang des innocents, par le sang, par la trahison, par les pleurs des veuves, par les pleurs des orphelins, par les gens qui ont commis toutes sortes de... Parce que le diable ne cesse de souiller la terre. Nuit et jour, il veut souiller cette terre-là. Et il l'a souillée. Il va la souiller encore davantage. Et la Bible dit que malgré le règne de Christ, après 1000 ans, on va libérer le diable encore pendant quelques temps. Et il aura l'occasion de séduire même encore d'autres personnes. Mais après ça, Dieu va détruire la terre. Et il va prendre le diable, tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui le servent, il va les jeter dans l'étang de feu. L'étang de feu n'est pas fait pour les hommes, l'étang de feu est fait pour le diable. Mais ceux qui aiment le diable, ils vont aller là-bas avec le diable. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne veut pas des gens qui servent le diable. Dans le royaume de Dieu, je vous ai dit, il a dit, mais qui rentrera dans le royaume de Dieu? Ni les idolâtres, ni les débauchés, ni les menteurs, ni les voleurs, ni les lâches, ni les escrocs. Tous ceux-là, ils n'entreront pas dans le royaume parce que le royaume de Dieu sera un endroit idyllique, sera un endroit merveilleux, sera un endroit où tu pourras avoir confiance à ton prochain, sera un endroit où tu vas connaître l'amour, sera un endroit où tu vas pouvoir expérimenter toutes les grâces de Dieu sans regarder derrière toi s'il n'y a pas un Judas qui passe derrière. Est-ce que tu comprends? Donc les Judas, pas dans le royaume de Dieu. Et donc on va tous les jeter dans les temps de feu. Et Dieu va créer une nouvelle terre. Et lorsqu'il va créer la nouvelle terre, il va nous mettre sur cette nouvelle terre-là. Et maintenant, il va faire descendre la nouvelle Jérusalem. Là, cette ville parfaite, elle va descendre. Et elle va maintenant venir sur la nouvelle terre. Et Dieu lui-même, il va quitter les cieux. Il va venir vivre dans cette nouvelle Jérusalem-là. Et la présence de Dieu va envahir la nouvelle terre. Et cette terre-là, il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de chaud, il n'y aura pas de froid. Parce qu'on va vivre dans la gloire de Dieu. Et ça sera comme ça pour l'éternité. Oh, oh, oh. Alléluia! Ça sera comme ça pour l'éternité. Alléluia! Et on n'aura plus affaire aux menteurs, on n'aura plus affaire aux voleurs. On sera vraiment, vraiment à l'aise pour l'éternité. Et le Seigneur a dit... Il a dit, mais je m'en vais. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais pour préparer ça pour vous. Donc, un peu de temps, je vais venir vous chercher. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espoir. Alléluia. C'est ça. Et pas autre chose. On va se lever, on va prier le Seigneur. Moi, je veux faire partie de ce royaume-là. Oh my God. Je ne veux pas rater le royaume en me laissant distraire par des religions bizarres. On dit non, il faut faire comme si, il faut marcher à genoux, il faut te chicoter le dos, non, il faut faire ça, il faut faire ceci, non, c'est comme ça. Tout ça là, c'est des tentatives pour pouvoir essayer de plaire à Dieu, de cacher la nudité. Alléluia. C'est des tentatives pour cacher notre nudité. Mais le royaume de Dieu, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Dieu, c'est plus que ça. Il veut nous faire entrer dans son royaume. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bravo de flores kindi flores condoria scendes. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu maintenant ce matin. Oui, Seigneur. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la grâce, donne-moi de pouvoir comprendre et de pouvoir m'inscrire dans le royaume, Seigneur. Je veux devenir un citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Sache que c'est quelque chose de fort qui se passe dans ta vie aujourd'hui. C'est un enseignement puissant que tu reçois aujourd'hui. Alléluia. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il te révèle ces choses. Dieu t'aime.